promociones. Más información en movistar.co.
Je t'aime, je t'aime, la canción prohibida, Jane Birkin. Esta actriz comenzó así en películas como Blow Up de Antonioni. Y luego entró en la onda de esta música que se tomaba al mundo. La canción prohibida, Je t'aime, mon un plus, 1969. También fue película. Pues la señora Birkin ha continuado como actriz en películas de Agatha Christie, entre otros, y como cantante en más discos que ha hecho. Está estrenando un disco que se llama Lo siento, estabas durmiendo. Perdón, perdona, estabas durmiendo. Hay una obra de teatro del mismo nombre. Juan Pablo, salude por favor a Mon Amour, a la espectacular Jane Birkin. Dígale que bienvenida a la W y que mucha suerte con su nuevo disco.
Jane Birkin, tout d'abord, bienvenue. On vous aime bien, on vous adore ici en Colombie. Et à l'heure de vous dire bonjour,
comment
on veut vous souhaiter.
Oui. Comment vous êtes avec le Covid? C'est comme en Brésil ou c'est moins terrible?
Nos pregunta, primero nos saluda Julio y nos pregunta que cómo nos está yendo con el COVID, que si es tan terrible como en Brasil, ¿cómo nos está yendo?
Contéstele, dígale que regular Ramírez.
C'est un peu compliqué ici parce qu'on a des problèmes avec les vaccins, les chiffres d'infection commencent à remonter, donc c'est compliqué. C'est pas si grave qu'en Brésil, mais on est un peu préoccupé.
Pauvre, faites attention à vous, hein, mon Dieu.
Cuídese, atención. Que nos cuidemos, por
atención,
favor.
Si vous
que
plaît,
nos
atención.
Cuidemos, por
la
favor.
Apelación controle. Régulo Ramírez. Juan Pablo, antes de ir al nuevo disco, al nuevo disco de ella y de su obra de teatro, Lo siento, estabas durmiendo y escuchando esta canción de finales de los años 60, pues ahí también estaba los 69 años eróticos con Gainsbourg, la decadencia con Gainsbourg y este clásico que fue el himno prohibido del amor, número uno en todos los países en su época. Ella de esta época con Gainsbourg y con esta música tan sensual, ¿tiene buenos o malos recuerdos?
Avant de parler au sujet de « Oh, pardon, tu dormais », on veut revenir en arrière, parler au sujet de ce vieil album avec Serge Gainsbourg où l'on retrouvait 69 années érotiques, la décadence, ou cette chanson que l'écoute là, « Je t'aime moi non plus ». Pour vous, vous rappelez de cet album, de ce disque, de ce temps-là, c'est plutôt des souvenirs joyeux ou des souvenirs amers?
Ah, des souvenirs joyeux. C'était une époque formidable, drôle avec Serge. Il était un caractère tout à fait étonnant parce que autant qu'il était un musicien sérieux et un poète très sérieux, il considère maintenant qu'il est comme Apollinaire. Eh bien, c'était un amuseur et il faisait le clown en allant dans les boîtes de nuit. Il était irrésistible et drôle.
Pues nos dice que son los recuerdos felices, muy felices, de una época formidable, Julio. Porque Gainsbourg era un tipo con un carácter sorprendente. No solamente era un músico y un poeta muy serio, ella lo compara con Guillaume Apollinaire, sino que además era un tipo muy divertido. Y nos cuenta que a él le encantaba ser el payaso de la noche, incluso en las discotecas, en las noches, cuando iban. A él le encantaba ser el centro de atención siendo un payaso. Ella tiene los mejores recuerdos de esa época.
Esta pregunta ya se la hice alguna vez en una entrevista en Madrid, cuando cantó en el club de jazz de Trueba. Y se la vuelvo a hacer porque si ella dice ahora que tiene esos recuerdos felices, ahora sí la está cantando en sus conciertos, el Je t'aime mon plus. Porque en aquella época no la cantaba. ¿Ahora la está cantando en un concierto de ella?
Il y a quelques années, mon collègue Julio, qui est en train de faire la question, a eu la chance de vous voir à Madrid, dans un club de jazz, le club de Trueba. Et à ce temps-là, il vous a demandé pourquoi vous ne chantez pas cette chanson « Je t'aime, moi non plus ». Aujourd'hui, maintenant, année 2021, est-ce que vous chantez cette chanson-là ?
Non, je n'ai plus jamais chanté parce que je n'ai pas mon partenaire. Je ne peux pas imaginer un autre homme à la place de Serge, très franchement. Mais je sais que pour le show que je vais faire avec Étienne Daho pour le nouveau disque, il y a beaucoup, beaucoup de chansons de cette époque-là aussi. Et il a même trouvé une introduction quand je rentre sur scène avec les premières notes de « Je t'aime moi non plus ». Mais non, je ne le chanterai pas. Ça, je peux chanter par contre Melody Nelson. Et je chante 3 chansons de Melody Nelson. Ça, c'est une joie parce que c'est vraiment des paroles tellement beaux. Et c'est une époque où tout le monde a découvert maintenant. Ça a pris à peu près 30 ans pour que les gens comprennent Melody Nelson. Mais maintenant, c'est le chanson, c'est le disque de Serge le plus connu dans le monde entier.
Pues nos dice que no, Julio. Nunca jamás. Nunca jamás volvió ni volverá a cantar esa canción, sencillamente porque es que ya no está el compañero de esa canción, que es Serge. Ahora, nos dice, en el show que viene pronto, que hará con Étienne Daho, quien la acompaña en este nuevo disco, habrá muchas canciones de esa época, de ese disco, e incluso habrá un pedacito, una introducción de ese Je t'aime, moi non plus. Pero también nos cuenta que estará retomando muchas canciones de Melody Nelson, 3 canciones particularmente, que a ella le sorprende que no hayan sido valoradas en su momento, pero que ahora, 30 años después, ya tienen el valor y el peso para ser apreciada por todos. Así que las canciones de Melody Nelson y un pedacito de las canciones de esa época con Serge Gainsbourg.
Ahí está, ese es el modelo 2021, pero con otro protagonista que la acompaña, Étienne Daho. Lo siento, estabas durmiendo. Es el origen de Pimpinela, ¿no, Juan Pablo?
Sí,
es el origen de Pimpinela.
Es una canción dialogada.
Dialogada. Tuvimos el Parole, Parole, ¿se acuerda también de
Alain Delon? Y creo que fue con Dalida, el Parole, Dalida. El Parole.
Ella dice ahí, lo siento, estabas durmiendo. ¿Quién estaba durmiendo, Juan Pablo?
Dans cette chanson-là, Jean, oh pardon, tu dormais. C'est qui était endormi?
Je te sens énervé.
C'était le thème de ma pièce de théâtre et le film que j'ai fait il y a 25 ans. C'est lui qui dort et c'est elle à ses côtés, enfin moi, qui s'énerve. Parce qu'il ne se réveille pas pour lui dire qu'elle l'aimait, qu'il l'aimait, qu'il l'aimerait même dans 10 ans, que voilà, de dormir tranquille parce qu'elle est en sécurité avec lui. Et, enfin, toutes les choses qu'on demande à quelqu'un qui est bien endormi à 3 heures du matin et il ne veut pas répondre. Donc lui, il répond de plus en plus fâché, de plus en plus irrité et finalement, il va la quitter.
Pues nos dice que esta es una canción inspirada en una película que hizo hace 25 años. Una escena en donde él está dormido, ella está despierta y empieza ella a desesperar porque él no se despierta para que ella pueda expresarle cuánto lo ama. Son todas esas cosas, dice ella, que una pareja tal vez puede preguntarse cuando uno está despierto y el otro está dormido a las 3 de la mañana. Pregunta sobre el amor, pregunta sobre la relación y lo que se nota en la canción es como poco a poco, al despertar a ese hombre, él desespera por las preguntas porque todo va camino hacia el desastre, el fin del amor, porque él se va.
Juan Pablo, ella ha dicho que este es su disco más personal hasta el momento. ¿Qué la hizo decidir abrirse sobre estas situaciones que ha vivido, especialmente la muerte de su hija Kate?
Vous avez déjà dit dans d'autres interviews que celui-ci est le disque le plus personnel que vous avez fait, avec des chansons qui ont des histoires très intimes. même avec l'histoire de la mort de votre fille Kate. Pourquoi ce moment-là pour faire ce disque?
Ben parce que pendant 7 ans, je me suis tue. Je n'ai rien dit sur Kate. Il n'y avait rien à dire. Il y avait juste à être profondément mélancolique. Donc j'ai resté dans cet état de tristesse pendant 1 an, 2 ans. Et puis je me suis mis sur la route avec Michel Piccoli et Hervé Pierre en disant les textes de Serge sans musique pendant 1 an pour sortir de la maison parce que je n'arrivais à rien faire. Et d'être à côté de Piccoli, qui était une si grande amie, c'était presque comme d'être avec la famille. Et puis arrivant au Canada, il y avait quelqu'un qui a dit « Pourquoi tu ne fais pas l'œuvre de Serge en symphonique ?» Et c'était une bonne idée. Je l'ai fait avec un orchestre symphonique, avec Nobuyuki Nakajima, le japonais, qui a fait toutes les orchestrations. Et j'ai fait à peu près 3 ans de tournée pour Serge. Je pense le plus glorieux que je pourrais faire. Je voulais venir en Amérique du Sud et c'était retardé, repoussé. Mais un jour, j'espère de venir le faire parce que avec un orchestre symphonique, ses paroles, ses mots sont juste magnifiques. Donc, il me semblait que j'avais fait tout ce que je pouvais pour Serge. Et j'ai donc pensé à moi et je me demandais si Étienne Dao était encore intéressé parce qu'il était il y a 20 ans, mais le temps a passé et il était intéressé, donc j'ai foncé vers lui et les premières paroles que je lui ai données étaient les paroles à propos de ma fille Kate, cigarette et les murs épais sur le cimetière. Et on a fait cette chanson tout de suite sur une musique un peu choquante et c'était très bien comme ça. Je pouvais pas faire un disque personnel sans parler d'elle. C'était son anniversaire hier, donc ça fait partie de ma vie, sa vie et sa mort.
Pues nos dice que durante 7 años estuvo en silencio, durante 7 años ella no cantó, porque nos dice no tenía nada que decir, me quedé en un estado de tristeza absoluto, así que en algún momento sus amigos, por ejemplo Michel Piccoli, le dijeron tienes que escribir. Y entonces empezó a escribir unos textos sin música, muchos textos. Y en un momento ella viajó, llegó a Canadá, y en Canadá le dijeron, ¿por qué no haces las canciones que hiciste con Serge Gainsbourg en modo sinfónico para tratar de sacudirte un poco esa tristeza? Y así fue. Fueron 3 años de gira en compañía de una orquesta sinfónica que le permitió retomar, recordar y volver a vivir esas palabras magníficas de Serge Gainsbourg. Y después de 3 años dijo ya, hice todo lo que pude por Serge. Llegó el momento de enfocarme en mí. Y ahí fue cuando se acordó que 20 años atrás, Étienne Dao le había propuesto hacer una canción. Y encontró entonces ella a Étienne, le preguntó si todavía estaba interesado. Le mandó la canción Cigarette, que es la que se inspira en la partida de su hija Kate. Y arrancó la producción de este disco muy personal. Y nos dice ella, no habría sido posible un disco muy personal sin hablar de ella, de lo que significó su muerte, de lo que significó su vida. Y nos destaca que además hay una particularidad. Ayer se conmemoró el aniversario de la partida de su hija Kate.
Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain la porte exacte.
Hablando de Serge Gainsbourg, quiero devolverme a esta canción también de 1969, L'Anamour. Quiero preguntarle a Jane si ella nos puede explicar qué significa L'Anamour, qué fue lo que quiso decir Serge Gainsbourg cuando se inventó esta canción, cuando creo que apenas estaba surgiendo la relación entre ellos. Jane, ça fait des années que je veux faire cette question. Pourquoi l'amour, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi l'amour? Qu'est-ce que Serge Gainsbourg a voulu dire lorsqu'il a inventé cette merveilleuse chanson?
Je ne sais pas. C'est terrible d'avoir attendu que je te donne la bonne réponse, alors que quand je le chante, je ne sais pas du tout. Il a chanté ça lui-même, il a donné à Françoise Hardy de chanter. Enfin, toujours je me suis demandé qu'est-ce que ça avait dit l'amour, mais j'avais trop peur de sembler bête. Donc je n'osais pas demander. Et il me semblait que c'était une vraie... une sorte de trip dans un hôtel avec les pavots sur les pavés de l'amour, je ne sais pas.
Nos dice que no sabe. Cuando, nos dice, cuando yo canto esta canción, no tengo ni idea de qué es lo que estoy cantando. Él la cantó, la cantó a Françoise Hardy, y cuando ella estaba con Serge Gainsbourg, le daba pena preguntarle a él sobre esta canción porque no quería parecer una tonta. Pero nos dice ella, yo creo que fue como una especie de trip, un viaje que se pegó Serge Gainsbourg en un hotel, y por eso era que veía trozos del pavimento que se levantaban y que surgían de ahí la música de la canción, pero no, nos dice, no sé qué significa el amour.
De los años 60. Es la señora Birkin, modelo 2021. Ojo a los coros en esta canción de su nuevo disco. Juan Pablo, la leyenda dice que ella, que era un ícono no solamente de la música por esa canción, que era la canción prohibida, de la actuación, porque era la consentida de Antonioni, era también un ícono de la moda. Y dice la leyenda que un día en un avión se puso a hablar con un señor, y que era el, sin que ella lo supiera, el director de la casa Hermès. Y ella le dijo al tipo, yo no entiendo ustedes por qué no hacen un bolso lo suficientemente grande para que nos quepan todas las cosas a las mujeres. Y ella se distinguía porque ella andaba, salía a la calle con un canasto. Así como suena, Juan Pablo, un canasto de plaza de mercado. Esa era la cartera de Jane Birkin. Y el señor Hermès le quedó sonando e hizo una cartera grande, que es quizá la cartera más famosa de todos los tiempos, la Birkin de Hermès, inspirada en ese comentario que le hizo al señor. Hoy es sencillamente inalcanzable comprar esa cartera. Y dependiendo del material, pero la básica, la más perratieri, es imposible de comprar, es una cartera muy costosa. Ella, después de que la cartera se volvió tan famosa, quedó con algún derecho de autor de la cartera que lleva su nombre. Ella tiene su psycho para lo de la cartera.
Y hay una historia, Jane, L'histoire du sac Hermès, le Birkin de Hermès.
Oui.
Alors, il y a l'histoire que vous avez retrouvée avec le chef de la maison Hermès dans un avion. Et oui. Vous lui avez dit, je comprends pas pourquoi vous ne faites pas un sac vraiment grand pour les femmes. On a besoin de mettre des trucs. Et c'est en fait que, à ce temps-là, vous allez dans la rue avec une corbeille dans le bras afin de mettre tout. Et ils ont créé le Birkin de Hermès. Aujourd'hui, c'est un des sacs les plus chers de Hermès. Est-ce que, tant de temps après, vous recevez quelque chose, un peu d'argent, des droits sur le sac Birkin?
Oui, depuis 5 ans, ils m'ont versé un peu d'argent. Et puis, j'ai aussi le droit de prendre des pulls et des vêtements chez eux. C'est vrai que c'est pas comme si j'avais si j'avais un pourcentage, j'aurais plus besoin de travailler. Mais peut-être tant mieux que je n'ai pas de pourcentage parce que comme ça je travaille encore et c'est un tel plaisir. Et je me suis dit que finalement, peut-être je dois pas mal de choses à ce sac. Après tout, ce n'est jamais que 4 fois la taille de le Kelly en fait. Et je suis connue aux États-Unis, à Singapour, à Kuala Lumpur, à cause du sac. Donc, mon seul embarras, c'est quand des dictateurs du monde, leurs femmes portent le sac et je me dis, mais à part ça, ça m'a porté que du bonheur.
Bueno, pues nos dice, mire Julio, solamente desde hace 5 años le empezaron a dar un poquito de dinero por cuenta de esa cartera. Ahora, también ella tiene derecho de poder ir a las tiendas de Hermès y entonces puede escoger algunas prendas de vestir de esa casa. Ahora, nos dice, si yo recibiera un porcentaje por lo que recibe la casa Hermès por la venta de esa cartera, yo sencillamente no tendría que trabajar. Así que lo mejor es no recibir ese porcentaje porque así me obliga a trabajar. Pero le agradece mucho a ese bolso, a esa cartera, porque nos dice ella, gracias a esa cartera soy aún más reconocida en el mundo. Voy a los Estados Unidos, mi nombre lo reconocen por la cartera, y así pasa en Singapur, y así pasa en Kuala Lumpur. Lo único que no le gusta mucho es que esa cartera normalmente los dictadores del mundo se la compran a las esposas, y entonces cuando ve a las esposas de los dictadores con su cartera, se siente un poquito mal.
No hay una mujer que pueda comprarla o pueda tener a alguien que se la compre que se resista. Eso hace parte del manual, una Birkin. Te pregunto, mi amor, ¿qué Birkin? Naturalmente hay que tener con qué, porque le repito, eso arranca en 1500 libras esterlinas y si vamos al tema de ayer de los cocodrilos, una Birkin puede costar 100.000 libras esterlinas. Victoria Beckham confesó que tenía 100 Birkins. Las hermanas Jenner, las hermanas Kardashian, las tienen todas. Ella, ¿cuántas Birkin tiene? Me imagino que tiene la número 1 y ¿cuántas más?
Bon, Victoria Beckham, elle dit qu'elle a tous les sacs Birkin. C'est la même chose chez les Kardashian qui ont tous les sacs Birkin. Vous, chez vous, vous avez bien sûr le premier sac Birkin de l'histoire. Et combien d'autres?
Bon, j'ai une. J'ai pas deux, j'ai une. À chaque fois qu'il devient vraiment vieux, je l'aime de plus en plus quand il est vieux et en mauvais état. Je trouve ça beaucoup plus chic. Mais à ce moment-là, je le vends pour les charités et j'ai déjà vendu 3. Un pour la Fédération internationale des droits de l'homme, un autre pour Amnesty et un troisième pour Médecins du Monde. Donc, et aussi pour une association pendant le Covid en Angleterre pour les femmes. Donc, je trouve mon utilité en donnant mon sac tous les 2-3 ans. Et je m'en fous d'avoir un nouveau, un vieux. Je le porte pas parce qu'il est beaucoup trop lourd. Mais les autres le veulent. Donc tant mieux si je peux faire quelque chose d'utile avec.
Pues
j'aimerais beaucoup aider la Birmanie en ce moment. C'est ça qui me tracasse. Je voulais aller à une manifestation demain. Pour la population de Birmanie et je suis contact Covid, donc je peux pas y aller Donc je vais écrire un mot ce soir pour qu'il puisse le lire demain sur la manifestation. Mais en Angleterre, on est plus curieux de Birmanie parce que c'était un comptoir anglais. Mais en France, pas beaucoup. Et j'aimerais beaucoup que le groupe pétrolier Total gèle tous les avoirs pour qu'il ne nourrit pas le géant Berman. Pour le moment, il le nourrit à 50 millions de dollars par an. Et ça les permet de... Avec les Chinois, bien sûr. Mais ça les permet de tenir le pays en otage.
Pues nos dice Julio que ella solamente tiene una cartera Birkin, para un total de una. ¿Por qué? Porque ella... Le parece que, además, a medida que la ve envejecer, le parece más chic, le parece mejor verla envejecida. Ahora, ella ha tenido otras y las ha ido vendiendo. Y las vende es generalmente para recoger dineros para organizaciones que le parecen importantes. Entonces, ha vendido uno para darle dinero a una organización de derechos humanos, otro para Médecins du Monde, otra para Amnistía Internacional. Ella dice que más o menos cada 3 años está haciendo la donación de un bolso Birkin para poder recoger recursos y donarlas a una organización. Ahora, casi nunca lo carga, porque le parece que es muy pesado. Pero fíjese usted que ahorita la cartera Birkin que tiene la estaría pensando en entregar para recoger dineros para enviarlos a Birmania, porque ella tiene los ojos puestos en ese lugar del mundo. De hecho, mañana ella quería asistir a una manifestación en contra del régimen birmano y todo lo que está pasando en ese lugar del mundo. No podrá asistir porque pues es una persona que puede, por su edad, puede resultar afectada por COVID y entonces tiene que evitar los contactos. Pero ella quiere mandar un mensaje y dice, mire, es hora de que la petrolera Total congele toda su actividad en esa zona del mundo, porque esa empresa petrolera francesa, al seguir operando y al seguir generándole regalías al régimen birmano, está alimentando a este régimen que mantiene secuestrado al país. Entonces, eso es para lo que utiliza el dinero de sus bolsos.
Dis sexe.
Je veux pas.
Dis ton sexe.
Arrête, je veux pas, je déteste.
Pourquoi?
J'aime pas les mots comme ça. Même sous la torture, je les dirai pas.
Par exemple quoi, à part sexe?
F-R-U-I-T.
Quoi? Tu peux pas dire fruit?
Non.
Et banane, pêche?
Sans problème.
Abricot?
Peut-être.
Et en anglais?
Je peux pas, si pire.
Tu penses aux camionneurs?
J'en ai marre de faire l'autre stoppeuse. J'ai été osé ces fleurs.
Dos volúmenes de memorias de los que han salido el eje central de estas canciones, ¿no? Pero los diarios íntimos, que no de memoria sino íntimos, se escriben siempre para ser leídos cuando uno se ha muerto. ¿Por qué razón los publicó usted antes? ¿Y cómo observa esa publicación y esos momentos con la perspectiva del tiempo?
Vous avez déjà publié 2 livres avec vos mémoires. Ce sont presque, c'est l'axe central de ce nouveau disque. Mais vous avez aussi publié vos journaux intimes. Et mon collègue, il dit, bon, normalement les journaux intimes sont publiés après la mort de quelqu'un, mais pas avant. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir fait ça et lorsque vous regardez ces journaux publiés, qu'est-ce que vous ressentez au sujet des histoires qui apparaissent?
Bah, au début, j'étais inquiète parce que je me montrais tellement comme une médiocre personne. À 12 ans, à 15 ans, à 20 ans, j'étais juste pas très intéressant, il me semblait. Mais j'ai croisé tellement de personnes intéressantes, hein, comme Serge Gainsbourg, comme John Barry. J'ai tellement d'anecdotes justes et drôles. Bien sûr, c'est mon point de vue. Ça, c'est toujours injuste que ça soit votre point de vue. Mais je les ai lus tout le week-end de Pâques pour les Anglais, parce que ils ont sorti, bien sûr, en Angleterre. Et c'était le premier tome Et j'ai redécouvert avec ravissement le drôlerie de La vie avec Serge, mes enfants, Kate, beaucoup. Et je dois dire que j'étais contente que ça existe. Et quelque part, au moins avec les journaux, vous ne pouvez pas tricher. Parce que vos souvenirs d'aujourd'hui sont parfois pas très justes. Alors, ce que j'ai pu faire, parce que je suis vivant, c'est d'ajouter les choses que je n'ai pas dites ou les anecdotes que j'ai pas dites parce que j'ai perdu les journaux de cette année-là. Voilà, j'ai pu faire ça. Et ça, c'est rare. Généralement, quand vous dites, le personne est mort. Mais là, j'ai fait deux fois la taille avec les anecdotes de souvenirs, en fait. Ça fait comme une biographie et un journal en un seul coup.
Pues al comienzo estaba un poquito inquieta, Rafael, porque al releerse ella se veía como una persona mediocre, una niña de 12 años, de 15 años, que en realidad no era nada interesante. Sin embargo, gracias a todas las personas con las que se cruzó en la vida, como Gainsbourg, como John Barry, pues empiezan a aparecer anécdotas que son realmente muy simpáticas. De hecho, nos cuenta que este fin de semana, el fin de semana de los días santos, estuvo releyendo el libro en su versión inglesa y fue redescubrir las locuras de la vida con Serge Gainsbourg y sintió una felicidad absoluta de que eso haya ocurrido. Mire, dice ella, con un diario personal no se puede engañar, no se puede mentir. Claro, ella ha tratado de agregar cosas que no dijo, que no escribió en su momento, o también le ha tocado reconstruir historias de diarios íntimos que perdió. Así que ha sido también un ejercicio de reescribirse, de redescubrirse y de tratar de encontrar esas historias que se le habían perdido en su pasado.
Par le hublot.